Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Tet dans Masechet Baba Mitzia. Nous reprenons 11 lignes à la fin du daf Lamed Tet Amud Bet. Donc 11 lignes en partant de la fin. Umoredim Karov le Nirse Shavuy. Le sujet qu'on avait abordé précédemment avec Marloket Rabbi Shmuel. Est-ce que lorsque quelqu'un est Shavuy, quelqu'un est emprisonné ou bloqué à l'étranger, est-ce que l'on place un proche de sa famille, un héritier sur le terrain pour qu'il s'en occupe et qu'il prenne une partie de la récolte pour que le terrain ne s'abîme pas? Et qu'on choisit quelqu'un qui est un héritier de telle sorte à ce qu'il n'abîme pas le terrain parce qu'il pense en hériter un jour. Alors, on m'a dit, Karol, Nir, c'est Shavuy, Tanaïm. On dit ici que finalement, c'est une marloquette Tanaïm. C'était déjà une marloquette Amoraïm, Rabbi Shmuel. On dit qu'on peut retrouver déjà cette discussion au niveau des Tanaïm. Pourquoi? Des Tania, c'est une Braïta. La Braïta va rapporter trois cas. Alors, ces trois cas, c'est ce qu'on appelle Shavuy, Netushim et Retushim. Alors jusqu'à présent, ce qu'on appelait Shavuy, nous, c'était quelqu'un qui était donc bloqué à l'étranger. Ici, on verra que Shavuy dont on parle, c'est quelqu'un a priori qu'on pense être mort. Donc ce ne sera pas exactement le même cas que Shavuy chez nous. Par contre, on aura ce qu'on appelle Netushim. Netushim, ça correspondra plus ou moins à ce qu'on disait jusqu'à présent dans Shavuy, parce que le Lachon des Tanaïm et celui des Amoraïm n'est pas forcément le même. Et après, on va voir Retushim, donc trois cas. Et parmi ces trois cas, on verra à un moment donné le nôtre. Et donc, on pourra voir effectivement que ces discussions entre Rav et Shmuel se retrouvaient déjà à l'époque dans les Tanaïm. Tania. Ayorei, Nirse Shavuy. Un proche qui vient sur les terrains du Shavuy, donc de quelqu'un qui, a priori, donc, n'est pas là. En Motsimoto Miado. On ne le sort pas du terrain. Velor, on dit non seulement ça. Et la filou, Shama, Shimemash Meshim, Ubaïn. Même si à un moment donné, celui qui est sur le terrain, il entend que la personne finalement revient, mais Kadam, au moment où il entend ça, Kadam, il se précipite, Vetalash, il arrache des fruits, Veachal, il les mange, Arezé, Zariz, Veniskar. Il a été rapide, on va dire, Veniskar, et il est gagnant, parce que justement, on estime que c'est quelque chose qui lui revient totalement. Veloé, Nirsechouim, c'est quoi Nirsechouim? Arech et Aviv, ou Achiv, ou Echal, Minamoreshim, Al-Khulel, Minatayam. On dit tout de suite la Braïta, c'est qui si Shvuyim? C'est ceux qui sont partis à l'étranger et dont on a entendu qu'ils sont morts. Alors, évidemment, à tort, puisque finalement la personne va revenir. Mais entre-temps, puisque l'on a appris qu'ils étaient morts, la personne qui est venue sur le terrain avait totalement donc, le droit, et comme elle avait totalement le droit ici, selon cette Braïta en tout cas, à ce moment-là, elle peut consommer totalement la récolte, et même lorsqu'elle apprend que la personne va revenir, elle a encore le droit de consommer ce qu'elle a devant elle, jusqu'à ce que la personne revienne. Donc ça ne correspond pas exactement à ce qu'on avait dit, nous, Shavuy, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qu'on pense être mort. Maintenant, nouveau cas, il y aurait Nirse Netushim, celui qui va sur le terrain, donc quelqu'un qui est Netushim, Motsimoto Miado, on l'empêche d'y aller. Velo Nirse Netushim, et voici ce que c'est Nirse Netushim. Aya Aresh, Aya Aviv, Ohriv. C'est lorsqu'il a un de ses proches qui peut lui faire hériter, qui est parti à l'étranger, sans que l'on entende que la personne soit morte. Et donc, a priori, la personne est bloquée. Et comme elle est partie en pensant revenir et qu'elle est bloquée, elle aimerait bien qu'on s'occupe de son terrain. Malgré cela, on voit qu'on a Tanakama qui dit que non. Et après, regardez, Vamar Rashbag, et bien Rabbanan Megamiel, il dit Shamarti chez Netushim, Keshuim. Moi, j'ai entendu que Netushim, c'est comme Shvuyim, c'est comme le cas où on pense qu'ils sont morts, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller sur le terrain. Et donc on a enfin notre marloquette, marloquette Rabbi Shmuel. Est-ce que le sur le terrain de quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui ne peut pas revenir, parce qu'il est emprisonné ou parce qu'il est bloqué, est-ce qu'on descend sur le terrain pour s'en occuper ou pas? Rabbi disait non, Shmuel disait oui. On retrouve cette marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel. Maintenant, on a un dernier cas. Ayorel et Nirse Retushim. Donc maintenant, celui qui a des biens de quelqu'un qui est Retushim, Motsimoto Miado. Celui qui va sur le terrain, on l'en écarte. Velouen Nirse Retushim. Et là, tout le monde sera d'accord. Et c'est quoi Nirse Retushim? Areshaya Aviv ou Achiv ou Echan Minamorishim Kan, Veno Yodeal et Echan Alchou. Celui qui est un de ses proches, qui est dans la région, mais on ne sait pas où il est. Donc on sait qu'il est dans la région, donc il peut intervenir. Donc s'il voulait qu'on s'occupe de son terrain, il pourrait le dire. Comme il ne dit rien, finalement, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on s'occupe de son terrain. Donc, on ne sait pas exactement où il est, mais on sait qu'il n'est pas loin. Donc, il a la possibilité de venir ou d'informer. Et donc, a priori, on a une présomption qu'il ne veut pas que l'on s'occupe du terrain. Donc, finalement, On a dans cette braïta trois cas. À chaque fois, une personne qui est partie et qui ne revient pas. Dans le premier cas, on pense qu'il est mort. Dans le second cas, on ne pense pas qu'il est mort, mais on pense qu'il est bloqué. Dans le troisième cas, on sait qu'il n'est pas loin et que dans l'absolu, il n'est pas réellement bloqué, qu'il peut au moins donner des instructions. Et en fonction de ces trois cas, donc les cas les plus extrêmes, dans le cas où on pense qu'il est mort, tout le monde sera d'accord qu'on peut faire ce qu'on veut sur le terrain, on peut tout consommer sur le terrain, même jusqu'à la dernière seconde avant qu'il arrive, même si on sait qu'il va arriver, on peut encore consommer. Dans le cas, par contre, on sait qu'il est dans la région et qu'il ne donne pas d'informations, tout le monde sera d'accord qu'on ne peut rien faire et que celui qui va sur le terrain, même si c'est un proche, on l'éjecte du terrain. Par contre, dans le cas où il est parti et qu'on ne pense pas qu'il est mort et qu'il ne peut pas non plus donner d'instructions, là, on revient sur la marque 4 Rabbi Shmuel qu'on retrouve ici entre Tanakama et Rashbag. Sur Tanakama, on ne peut pas mettre un proche. Selon Rashbag, on peut, oui, mettre un proche. Au passage, la Gemara essaye de comprendre le langage Netushim et Retushim. Celui qui est parti loin, qui est bloqué, on l'appelle Netushim. Celui qui est parti pas très loin et qui choisit de ne pas revenir, de ne pas donner d'informations, il s'appelle Retushim. Pourquoi ? Maishna anar de karuli Netushim ou Maishna han de karuli Retushim. Pourquoi utiliser deux expressions semblables ? Et quelle est la différence entre les deux ? Alors, Netushim de Baal Kochan. Pourquoi Netushim c'est Baal Kochan ? À cause du pasouk qui parle au sujet de la Shemitah, l'obligation de laisser la terre se reposer pendant la Shemitah, c'est marqué Vashivait, Nirtiv, Vashivait, et la septième année, Tishmetenna Untashta. Tu devras faire reposer Untashta et abandonner la terre. Et ici, on voit quoi ? Que c'est Afka'ata des Malka. On voit que c'est, entre guillemets, un abandon qui vient d'un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme c'est quelque chose qui est extérieur, dans la Torah, ce que la Torah nous dit de ne pas toucher à mon terrain, dans le cas de la Shemitah, c'est un ordre extérieur, c'est pas la personne qui le souhaite, c'est Hachem qui l'en empêche. Du coup, quand on veut parler de quelqu'un qui ne peut pas revenir sur son terrain pour une raison qui lui échappe, on va dire Lashon Netushim, comme Untashta, Untashta Netushim, c'est la même racine, c'est la raison pour laquelle on utilise cette expression. Maintenant, Retushim, pourquoi on utilise Retushim pour Midaratan, pour celui qui ne revient pas plus ou moins de son propre gré, dirtiv, im albanim rutasha. Quand on parle là-bas de la mère, dans Oshar là-bas, la mère avec les enfants seront abandonnés, on parle ici du fait justement que les gens vont abandonner les personnes, ils vont abandonner une femme et ses enfants, et donc c'est des gens qui abandonnent les gens de manière volontaire. Donc un homme qui abandonne une femme et les enfants, il l'abandonne de manière volontaire, et donc Retushim, finalement, c'est quelqu'un qui abandonne une famille ici de manière volontaire, et donc quand on veut parler de quelqu'un qui abandonne son terrain de manière volontaire, on dit Retouche. Donc au niveau déjà de la grammaire et du vocabulaire, Netouche, c'est quelqu'un qui est obligé de laisser sa terre pour la Shemitah, Retouche, celui qui choisit d'abandonner sa famille ou une famille, et donc c'est pour ça que pour le terrain, on utilise ces expressions-là. En tout cas, on a bien trouvé la marque loquette Rav Shmuel dans cette braïta. Au passage, la Gemara continue cette braïta qui va être le sujet principal du début du daf, et la suite du daf finalement parlera encore toujours de ce sujet de Nirsé Shavuy. Tana vechulam shamin laem ki aris. Et à la fin, sur cette Mishnah, on dit et tous, dans tous les cas où on descend sur le terrain, shamin laem ki aris. On jauge, on estime comme un aris, c'est-à-dire qu'on rémunère la personne comme un aris. Aris, c'est le vassal, celui qui travaille sur un terrain. Quand à l'époque les gens n'avaient pas la possibilité de s'occuper de leur terrain et que certaines personnes n'avaient pas assez d'argent pour devenir propriétaire terrien, on faisait un contrat. Celui qui avait le terrain mais qui ne pouvait pas s'en occuper laissait la personne qui n'avait pas les moyens travailler sur son terrain, et la personne travaillait comme si c'était le sien et prenait un pourcentage de la récolte et un pourcentage qui était donné au propriétaire. Ça, c'est Aris. On nous dit ici que celui qui descend pour s'occuper du terrain d'un de ses proches qui est à l'étranger, il est rémunéré comme un Aris, comme un contrat de Aris. Alors, la Gemara maintenant se dit sur quel cas ça parle. On a parlé de trois cas. On a parlé d'un cas, à chaque fois, c'est la personne qui est proche qui est partie. Soit une fois, elle est partie, on pense qu'il est mort. Soit une fois, il est parti et on pense pas qu'il est mort. Soit une fois, on sait qu'il est dans le coin, on ne sait pas pourquoi il ne revient pas. Mais a priori, il ne veut pas revenir. La Gemara nous dit, aïe, sur quel cas on a dit qu'on le rémunérait comme un haris. Quand on regarde bien, on a dit qu'on avait trois cas. Le premier, le troisième, ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que le premier, on a dit, on lui donne tout. Il prend tous les fruits et même jusqu'à la dernière seconde, quand il sait que l'autre va revenir, il peut encore consommer. Donc là, il n'est pas rémunéré comme un haris. Il prend tout. Le dernier cas, on a dit, tout le monde est d'accord que motsi inoto. On l'éjecte. On l'éjecte. Et le cas intermédiaire à plus beau qui était la machloket Tanakama et Rashbag, c'était quoi la machloket? Un, il dit, Rav, on ne le laisse pas rentrer sur le terrain, donc il ne touche rien, comme le troisième cas. Et Rashbag, il disait, le deuxième cas, il est comme le premier. Donc finalement, on a un premier cas, un troisième cas qui ne correspond pas à Harris. Premier cas, tout le monde est d'accord qu'il prend 100%. Troisième cas, tout le monde est d'accord qu'il prend 0. Et le cas intermédiaire, on a une marque loquette. Est-ce qu'il est comme le cas numéro 1 ou cas numéro 3? Donc au sens premier, ça veut dire est-ce qu'il prend 100% comme Rashbag ou est-ce qu'il prend 0% comme Tanakama? Donc l'Agma va trouver qu'il est impossible ici de trouver un cas où on dit qu'il y a Harris. Donc comment on peut conclure la braïta en disant que dans tous les cas, il est amené comme un Harris? Aïe, sur quel cas? Il est machouim, si tu parles du premier cas où il chavouille, qu'on pense qu'il est mort. Ashtazaris Beniska, avant on a dit qu'il était Zaris Beniska, que même quand le type est en train de revenir, il peut encore consommer les fruits. Maïdesh Barmubaya, qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'il va être rémunéré comme un Harris entre-temps? C'est faux, il prend tout. Et la Ritushim, ah, tu peux peut-être parler du dernier cas. Le dernier cas, on a dit que tout le monde est d'accord que s'il rentre sur le terrain, on l'éjecte. Donc il ne peut pas rester et prendre comme un Harris, c'est faux. Et la Motsimotami, c'est marqué selon tout le monde qu'on l'éjecte du terrain. Et là, Netushim, ah, peut-être sur le cas intermédiaire, mais comme on a dit il y a quelques instants, le cas intermédiaire, on se partage entre Rashbag et Tanakama pour savoir si c'est comme le premier, comme le troisième. Léman, comme qui? Il est malé Rabbanan, si c'est comme Chachamim. Hamri Motsimoto Miado, on a dit que Chachamim l'éjecte du terrain. Au Rabban Shimon Megalmiel, si c'est Rabban Shimon Megalmiel, Hamar, Shamati, Shinek, Keshuim. Pourtant, Rashbag lui l'a dit que le cas numéro 2, pour lui, il a entendu que c'était comme le cas numéro 1, c'est-à-dire qu'il prend tout. Donc il est Zaris Veniska, même si la personne est en train de revenir, il peut encore consommer. La Gemara nous dit finalement, non, c'est pour Rashba qu'on a dit ça, et le cas intermédiaire, mais quand il a dit que le cas numéro 2 était comme le cas numéro 1, il est comme lui en partie, mais pas au niveau de la quantité de rémunération. C'est-à-dire, Keshuim Keshuim de Inmusimiado. Il est comme le premier cas qu'on ne l'éjecte pas de la terre, mais au niveau de la quantité de rémunération, c'est pas pareil. Mais une différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est que dans le premier cas, on pense qu'il est mort, il peut tout prendre, et même jusqu'à ce que la personne revienne. Et dans le deuxième cas, le point commun, c'est qu'on le laisse aller sur le terrain, mais par contre, au niveau de la rémunération, il sera comme un haris, et non pas Zariz Veniska. Maintenant, la Gemara pose la question sur la braïta de manière générale. Pourquoi finalement ça c'est différent d'une braïta qu'on va citer à l'instant, d'une Mishnah qu'on va citer. Ou Maishna Mehadetnan. Pourquoi finalement ce qu'on vient de dire à l'instant est différent de cette Mishnah? Hamotzi Otsaot Anirsemilog Ishto. Celui qui est marié, sa femme amène des biens qu'elle va récupérer plus tard en cas de divorce ou de veuvage, et entre-temps, ces biens-là sont utilisés par le mari et lui bénéficie de l'usufruit des biens. Pendant le mariage, il est motzi otsaot, donc il effectue des dépenses pour les biens de sa femme. Otsi arbe vachalkima. Et ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il arrive, qu'il ait dépensé beaucoup et récupéré peu de perot, d'usufruit, ou l'inverse, kima, il a dépensé peu, vachal arbe, mais il a beaucoup profité, ma she otsi ou ma she achal. On nous dit ici que finalement, ce qu'il a pris, il a pris ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé. Et on voit de cette Mishnah que finalement il n'est pas payé comme un haris. Ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé. Ce qu'il a récupéré, il l'a récupéré. Ni plus, ni moins. Et on voit qu'on ne jauge pas comme un haris. Et la Gemara, pour l'instant, pense que l'homme qui s'occupe du terrain de sa femme quand il est marié avec elle ressemble au cas où on est un proche et que le proche s'occupe des biens de la personne de sa famille qui est à l'étranger. La Gemara dit non, mais ça ne ressemble pas. Allô, Damien? Et la Léa, si tu veux faire ressembler le cas de Chavouille au cas d'un mariage, ça ressemble à un autre cas. Dites-nous, c'est une Mishnah aussi, d'Amar Rav Yaakov. C'est Rav Yaakov qui dit une reprise d'âme. Celui qui dépense de l'argent pour les biens de sa femme, mais sa femme qui est mineure. Et dans un cas où elle n'a pas été mariée par le père. Quand une petite fille mineure est mariée par son père, le mariage est valide au niveau de la Torah. Lorsque par contre la jeune fille est mariée par sa mère ou par ses frères lorsque elle est orpheline du père, à l'époque on mariait les jeunes filles toujours avant l'âge adulte. Et donc lorsque le père décédait, Chachamim ont donné le droit à la mère et aux frères de le faire parce qu'à l'époque c'était compliqué de laisser une jeune fille grandir sans la marier. Et donc les mères et les frères souvent marient ces filles-là. Simplement, comme la Torah n'a pas donné le droit à ces personnes-là de la marier, c'est un mariage qui n'a pas de validité au niveau de la Torah. Et donc lorsque la fille grandit, elle a le droit de refuser ce mariage et de l'annuler rétroactivement, puisque finalement, il ne peut marcher ce mariage qu'à condition qu'à la fin elle accepte. Si elle n'accepte pas à la fin, ça nous éclaire sur le fait que dès le départ, elle n'aurait pas voulu. Et donc ce qu'on a fait en son nom, lorsqu'elle avait 8, 10, 11 ans, finalement, n'a aucune valeur. Alors on nous dit ici que celui qui est marié avec une fille comme ça, celui qui dépense, Kemotse anirse acher damé. Là, ça ressemble à quelqu'un qui dépense pour quelqu'un d'autre, pour un étranger. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas confiance. Il n'est pas certain qu'elle va vouloir. Parce qu'il a peur que cette jeune fille-là, lorsqu'elle grandisse, annule le mariage. Donc du coup, Tekinoule Rabanan, Chachamim ont fait une takana, Kiri, Delolastidnu. Ils ont fait une takana que le mari récupère et rémunéré pour pas justement qu'il ne s'occupe pas bien des terrains et qu'il s'abîme. Achanami chez nous aussi, Tekinoule Rabanan, Kiri, Delolastidnu. Pareil chez nous, dans le cas du proche de la personne qui est emprisonnée à l'étranger, on a peur que la personne, si on la laisse dépenser, faire des dépenses et on ne laisse récupérer que ce qu'elle peut récupérer, qu'on ne la paye pas comme un haris. Si on ne la paye pas comme le haris, enfin, on a peur que la personne ne s'occupe pas du terrain. Donc ce qu'on apprend ici finalement, c'est qu'on a une takana dans deux cas. Il y a deux cas où les chachamim ont eu peur que la personne qui s'occupe du terrain ne s'en occupe pas comme il faut. Si on demande à quelqu'un de s'occuper du terrain d'un emprisonné et que la personne n'est pas payée comme un haris, on a peur que la personne ne s'occupe pas du terrain, que le terrain s'abîme. Lorsque quelqu'un épouse une jeune fille qui peut, à l'âge adulte, annuler le mariage, par exemple lorsqu'elle a été mariée par sa mère et par son frère lorsqu'elle est orpheline de son père, dans ces cas-là aussi, on a eu peur que le mari ne veuille pas s'occuper du terrain parce qu'il se dit, ça se trouve, ce terrain-là va disparaître de ma vie dans un ou deux ans lorsque la fille, peut-être, ne voudra plus rester mariée avec moi. Et donc, du coup, on a fait une takana de le payer également comme un haris. Mais dans le cas d'un mariage normal, c'est différent. C'est la raison pour laquelle dans un cas de mariage normal, on ne retrouve pas cette halakha, cette rémunération du haris, comme on l'a vu ici, selon Rashbag. On reprend sur la braïta avec Khulan, Shamin et Karis. On a dit, et tous les cas, dans tous les cas, on est Shamin, Karis, on le paye comme un haris. On a vu qu'on avait trois cas dans la braïta. Or, sur ces trois cas, on a dit que ça ne concernait qu'un seul cas. Et encore, selon Rashbag, premier cas, on pense qu'il est mort, il prend tout. Dernier cas, on sait qu'il est dans la région, qu'il fait exprès de ne pas revenir. On ne peut pas aller sur le terrain. Le cas intermédiaire, on a une marloquette entre Rashbag et Chachamim. Là-dessus, on a dit Verhulan, dans tous les cas, il est payé comme un haris. Mais ce n'est pas tous les cas, c'est que le cas de Rashbag. Donc là, on a dit Verhulan, l'acte Emaï. Alors pourquoi on a dit Khulan ? Khulan, c'est pour rajouter quel cas ? C'est le cas de Rashbag ici. Et un autre cas, l'agma nous dit l'acte Yehad et Amar Nachman. Amar Shmuel, c'est pour nous rapporter ce que va dire Rav Nachman par la suite. Pourquoi ? Parce qu'on a un premier avis, c'est Rav Nachman qui cite Shmuel. Avant de citer son propre avis, il cite d'abord Shmuel. Shavui Shenishba, quelqu'un qui est emprisonné, Moridim Karol Inchasav, on met quelqu'un à sa place. Yatsala Da'at, s'il sort de manière volontaire, En Moridim Karol Inchasav, on ne met pas un proche à sa place. Maintenant, Rav Nachman lui-même n'est pas d'accord. Il dit Rav Nachman, d'idée, lui-même, il dit Amar Boreach Areu Keshavui. Celui qui s'enfuit, il est comme un chavouille. On verra pourquoi il s'enfuit. Mais en tout cas, ce qu'on a ici, on a un deuxième cas selon Rav Nachman. Selon Shmuel, non. Selon Rav Nachman, oui. Et donc, du coup, c'est ça vers Khulam. Pourquoi tous les cas ? C'est parce qu'on a le cas de celui qui est bloqué, qui est emprisonné. Et on a le cas de celui qui est parti de manière volontaire. Il est parti de manière volontaire. Et même s'il est parti de manière volontaire, mais qu'il ne peut pas revenir, on estime qu'il est comme chavouille. Et donc à ce moment-là, Moridim, on va sur son terrain et on paye le proche qui est sur le terrain comme un haris. Maintenant, de quel boréach on parle ? Il m'a dit, boréach mechamat mai. Quelqu'un qui fuit de quoi ? Il fuit quoi ? Il est ma mechamat. Car regarde, si tu dis qu'il fuit pour des problèmes d'argent, il fuit des dettes. À ce moment-là, il ne la darat. Là, il est vraiment volontaire, c'est lui qui décide de partir. Il n'a pas de raison ici de s'occuper de son terrain. Et là, Boreach Mechamat Mardin, C'est un cas où il fuit à cause d'un meurtre, c'est-à-dire qu'il a causé la mort de quelqu'un de manière volontaire ou involontaire. Et à l'époque, les non-juifs qui étaient dans cette région étaient très stricts, comme on l'a vu il y a quelques semaines, par rapport à ça. Et je crois que c'était Rav Kahana à l'époque. Et donc, comme ils étaient très stricts, là, il est obligé de fuir. Et à ce moment-là, pour éviter les châtiments des goyim, et donc à ce moment-là, il fuit, mais selon Rav Nachman, pas Shmuel, mais selon Rav Nachman, ça s'appelle qu'il est comme Shavuï. Et donc c'est pour ça qu'on a dit Vechoulin, qu'il y a deux cas, le cas de Shavuï et le cas de Boréach Mechamat, Mardin. Marabi Yuda, Mar Shmuel, maintenant, Alacha de Shmuel, Shavuï chez Nishba, Venir Kama. Donc le cas est un peu différent maintenant. Toujours quelqu'un qui part et qui est emprisonné. Simplement, avant de s'occuper du terrain pour le faire travailler, semer, labourer, ainsi de suite, on a d'abord une récolte à faire immédiatement. Et ici, on nous dit que le dîn sera un peu différent. Venir Kama Liktsor, Anavim Liktsor, Tmarim Likdor, Zetim Limsok. Et il a laissé des blés, des raisins, des dattes ou des figues à récolter. Donc les verbes différents sont les verbes qui sont associés à ces types de végétaux. Bedin Yordin et Chassav. Le Bedin envoie quelqu'un sur ses terrains. Ou Ma'amidin. Alors là, on fait une distinction. Apotropos, c'est d'abord un tuteur. Ce n'est pas un proche qui va s'occuper de la récolte immédiate. Kotser ou Botser avec Goder ou Mosek, qui va récolter tous ces fruits-là. Et ce n'est qu'après que l'on va mettre un proche pour la suite. La Gemara dit, attends, si tu as mis un apotropos, si tu mets un tuteur, Velokim apotropos, là, tu n'as qu'à laisser le tuteur à jamais. La Gemara dit, apotropos, les diknané le mokminan. Non, on ne met pas un apotropos, un tuteur pour des vieux. Diknané, c'est zkenim. Quand on dit un vieux ici, c'est un adulte. Le principe de laisser un tuteur, soit il s'occupe d'un orphelin, soit il peut s'occuper comme ça ici exceptionnellement de manière stricte, de manière limitée. Mais un apotropos, on a peur de ne pas trouver quelqu'un qui soit motivé à s'occuper du terrain d'un étranger à long terme si ce n'est pas justement une personne de qui il peut hériter. Donc la distinction ici est faite entre la récolte, qui la récolte est déjà presque considérée comme un bien entre guillemets mobilier. Et les récoltes à venir, et le terrain lui-même qui est considéré comme un bien immobilier. Donc, la partie, on va dire, mobilière, entre guillemets, encore une fois, c'est la récolte, on la laisse à un apotropos, le reste, on le laisse aux proches de la famille. Nouvelle halakha, au nom de Ravuna, Amar Ravuna, En Mouridin Katan, Lenirse Shavu. On a dit qu'on a deux personnes, soit la personne qui est emprisonnée, et la personne proche que l'on veut mettre sur le terrain. Maintenant, dans ce cas-là, il y a une possibilité que l'une des deux personnes soit un mineur. Ce que nous apprend ici à Rabouna, c'est qu'aucun des deux ne peut être mineur. C'est-à-dire, En Moedin Katan Nirse Shavuï. Si la personne qui est emprisonnée est adulte, mais que la personne qui est proche, l'héritière, est un enfant, est un mineur, on ne met pas l'enfant pour s'occuper du terrain d'un proche. Velo Karov, et l'inverse non plus. Velo Karov, Nirse Katan. Si le terrain appartient, on va dire par héritage par exemple, à un mineur, et que ce mineur est bloqué, et qui ne peut pas s'occuper du terrain, on ne mettra pas non plus un de ses héritiers, un héritier de ce katan, sur le terrain. Velo karo mechamat karo, dire ce katan. Non seulement on ne mettra pas un proche du mineur, on ne mettra même pas un proche du mineur. Donc le mineur a quelqu'un qui peut hériter de lui. Imaginons, je ne sais pas moi, qu'il est voilà. Il a quelqu'un de sa famille qui hérite de lui, et cette personne de sa famille a une autre personne qui elle-même hérite de ce proche, mais qui n'hérite pas directement du katan, on ne le nomme pas non plus. L'agma va expliquer tout cela. En Mouridin Katan Yersé Shavuï. Pourquoi on ne met pas un katan, un mineur, sur les biens de quelqu'un qui est emprisonné? Dites même Afsid Léou, parce qu'un katan, on a peur qu'il s'occupe mal du terrain. Et nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est que le terrain ne perde pas de salaire. Velo Karo Mechamad Karo, Yersé Katan. Pourquoi on ne met pas un proche d'un proche pour un katan? Et donc, a fortiori, donc, un proche pour un katan. Be'aché me'ima. Ici, on parle des frères maternels par la mère. Et donc, velo kor nirse katan. Keivan de lomaché ate le'arzu kebe. Pourquoi? Parce que comme l'enfant ne sait pas faire de mecha'a, ne sait pas protester et ne sait pas exactement ce qui appartenait à son père, ainsi de suite, et ne sait pas protester, on a peur que la personne commence à habiter sur le terrain pendant que le petit est mineur, et qu'à la fin, quand l'enfant grandit, la personne y reste, et que la personne finalement ne puisse pas l'enfant, quand il est adulte, ne puisse pas récupérer son terrain, ne sache pas le faire. La Gemara, au passage, apprend une halakha, marava, shmamina, mideravuna, en machazikin, meirsekatan. De là, on apprend qu'on ne peut pas faire de chazaka sur les biens d'un katan, d'un mineur, parce qu'on voit en tout cas que comme les mineurs ne savent pas protester, donc Wafilou, il dit, même une fois qu'ils ont grandi, donc quelqu'un qui s'est mis sur un terrain qui a priori appartenait à un mineur qui avait hérité, et la personne vient et dit comme dans Baba Batra, voilà, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Quand on est sur un terrain depuis 3 ans, on n'a pas besoin de prouver normalement et d'apporter des documents, il suffit d'être là depuis 3 ans pour qu'on soit cru, pour dire, voilà, je l'ai acheté, j'ai hérité. Celui qui reste 3 ans sur le terrain d'un mineur, et non seulement ça, mais il attend 3 ans une fois qu'il a grandi. À ce moment-là, il pourrait dire, voilà, autant quand il est petit, il ne peut pas protester, mais quand il a grandi, il pouvait le faire. Je suis resté 3 ans depuis qu'il est adulte. Comme Hachmolan, que non, pourquoi? Parce que quand la personne est rentrée sur le terrain lorsqu'il était mineur, le mineur a accepté l'idée que c'était à lui, et il ne peut pas protester même lorsqu'il est adulte. La Gemara, maintenant, veut nous faire un chilouk sur le premier cas. Le premier cas qui disait que on ne peut pas mettre un proche, on ne peut pas mettre un proche sur les biens d'un mineur. Donc, Mechila sur le deuxième cas, Velo Amaran et la Berachede Abba. On nous dit ici, c'est que dans le cas où ce sont les héritiers, les frères du côté du père. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le proche dise, voilà, je suis l'héritier de ton père. Aval Berachede Ima, mais si c'est les frères du côté de la mère, c'est pas possible. Pas de problème, l'itlanba. Et on dit que même dans le cas où c'est les frères paternels, c'est que pour un terrain. Va le bâter. Mais dans les maisons où les gens savent qui habitait, qui habite l'itlanba, il n'y a pas de problème. Et pareil, sur un terrain, ça ne pose problème que s'il n'y a pas eu de document qui clairement définissait qui devait, comment on devait se partager l'héritage. Voilà, c'est un document. Kala Itla, il y a un col, et on sait qui devait hériter de quoi, et l'agma finalement réfute. Tous ces chiloukim nous disent Velohi. Loshna Achedeaba, Veloshna Achedeima. On ne fait pas de différence entre les frères paternels et maternels. Loshna Arata, Veloshna Bate. On ne fait pas de différence entre une maison et un terrain. Veloshna Avid Aiteda, Veloshna. Lo Avid Aiteda, on ne fait pas de différence entre un document ou pas document. Lo Martinan, on ne laisse pas sur le terrain. Donc, un projet. Finalement, on a trois cas dans cette histoire. On a le cas d'un katane que l'on veut mettre sur le terrain. On ne peut pas mettre un mineur sur le terrain de quelqu'un d'emprisonné parce qu'on a peur qu'il s'occupe mal du terrain. Après, on a vu que lorsque c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le mineur qui est propriétaire du terrain et que l'on veut mettre quelqu'un de sa famille, on ne met pas un héritier sur son terrain, quel qu'il soit. Et là, on ne fait pas de distinction entre les frères du père, de la mère, du frère. Du côté de la mer ou ainsi de suite, ou les types de terrain, ou les types de manière d'héritage, on ne fait pas de distinction. Par contre, lorsqu'on dit qu'on ne met pas le proche d'un proche sur le terrain, là on parle que du côté de la mer. Ça, c'est finalement la fin de cette halakha. Au passage, la Gemara justement va nous rapporter un maracé, une histoire où on a eu un problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait pas éviter la transgression d'une halakha de Ravuna. Ravuna a dit qu'on ne peut pas mettre un mineur sur un terrain, et d'un côté, on ne peut pas mettre quelqu'un, un grand, un majeur, sur le terrain d'un mineur. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait pas quoi faire. Aïsavta, c'est l'histoire d'une grand-mère. Daviala, Tlata Benata, elle avait trois filles. Trois filles et un petit-fils, on verra. Alors, sur les trois filles, Ishtabaihi, Vechada, Barta. Elle s'est retrouvée prisonnière avec une fille. Et Idar Tarte Benata, et sur les deux autres filles, Shriva Khada Minayu, et il y en a une qui est morte et qui a laissé une petite fille, et l'autre, a priori, qui est en vie. Donc on se retrouve donc avec trois filles de la grand-mère. La grand-mère qui a trois filles, une qui est emprisonnée avec elle, donc qui a le même statut qu'elle, une qui est morte et qui laisse un héritier, et une qui est vivante. Amar Abaye Echina Avid. Abaye dit, comment on va faire avec ça? Luk Minhul Nirse. Si on voulait laisser les biens de la grand-mère qui est emprisonnée, donc normalement comme elle est emprisonnée, on devrait mettre un proche sur le terrain. Qui est le proche qu'on peut mettre? Il y a une fille qui est emprisonnée avec elle, c'est pas possible. Il y a une fille qui est morte, c'est pas possible. On n'a qu'à mettre la troisième fille qui est vivante. Alors si on met celle-ci, c'est un problème. Pourquoi? C'est comme la grand-mère n'est pas là. Dilma, Shriva Savta, peut-être qu'elle est morte. Et si elle est morte, peut-être que finalement elle a donné l'héritage à ses filles. Et une de ses filles, la fille qui est morte par exemple, fait hériter à son fils. Et donc, du coup, ce fils-là qui est mineur, il fait partie des propriétaires du terrain. Dilma Shriva Savta, peut-être qu'elle est morte. Et à ce moment-là, on se retrouverait à mettre une des tantes, donc une des filles, sur le terrain qui finalement n'appartient pas à la grand-mère, mais appartient, en tout cas en partie il appartient au mineur, et on ne peut pas mettre un adulte sur les biens d'un mineur. Donc on transgressait une des halakhot de Ravuna. Donc nous, l'inir se bida deinuka. Ah, on n'a qu'à laisser tout le terrain dans la main du mineur. On sait très bien que non. Dilma, le shri va safta. C'est un problème, parce que si à la limite la grand-mère est morte et qu'il est propriétaire, on veut bien. Mais si la grand-mère n'est pas morte, on a un problème. Dilma, le shri va safta. Mais il m'aurait dit Katan Nir Sachavoui, et qu'on est en train de mettre le terrain dans les mains d'un Katan pour une personne qui est majeure et qui est emprisonnée, qui est la grand-mère. Donc, comme dans le cas de la grand-mère, elle est emprisonnée, mais on a peur que finalement elle soit morte. Et que si elle est morte, finalement, ce soit les biens, entre autres, de celle de l'autre qui est chouïa avec elle, qui est emprisonnée avec elle, et qu'à ce moment-là, on a un problème, soit de mettre un mineur, soit de mettre un majeur, parce que voilà, si elle est morte, ça appartient en partie au katan, et on mettra à ce moment-là une tante, donc un adulte sur les biens d'un mineur. Si par contre, elle n'est pas morte, et qu'on laisse le katan, c'est le katan qui serait sur les biens d'un quelqu'un qui est emprisonné, et donc c'est un problème. Donc Amar Abaye, il car, palga yahavina, la lachata, c'est pour ça qu'on va partager. La moitié, on laisse à la fille qui est vivante. Veidar palga, et l'autre moitié, donc minane apotropos ninuka. On les met dans les mains d'un tuteur du mineur. C'est le tuteur qui va remplacer le mineur de telle sorte à ce que ce soit pas physiquement un adulte. La Gemara dit Rav Amar, Migo de Mokmina, un apotropos de l'épargne. Puisque tu nommes un apotropos, un tuteur, parce qu'ici encore une fois c'est un mineur, Mokmina, l'apotropos, l'Eidar Palga. Selon Rava, ce n'est pas la peine de le partager. On n'a qu'à tout laisser dans les mains d'un apotropos, d'un tuteur qui s'occupera du terrain. Et à ce moment-là, on a réglé le problème. Maintenant, autre cas. Les Sof, Shamo, des Shriva, Safta. À la fin de cette histoire, on a entendu par des témoins que la grand-mère était morte. Si la grand-mère était morte, c'est-à-dire que les filles héritent, et parmi les filles qui héritent, il y a celle qui est vivante devant nous, et celle qui est morte donne l'héritage à son fils. Donc on a finalement un terrain qui appartient entre autres à une des filles qui est présente, qui est entre autres, qui appartient également aussi à celle qui est emprisonnée, qui était emprisonnée avec la grand-mère mais qui est encore vivante, et qui appartient donc à ce jeune homme qui est le petit-fils. Alors, qu'est-ce que l'on fait, nous dit Abaye ? On va partager. Tilta yavina lelachata, on donne un tiers à celle qui est vivante, la tante qui est vivante, la fille vivante. Mais tilta yavina leinuka, on donne un tiers au jeune homme. Veidar tilta, et le dernier tiers, on le partage. Yavina dinaka lachata, on laisse encore la moitié, ce qui revient donc un sixième au total, à la tante. Veidar dinaka. Et l'autre sixième, Mukminale, Apotropa, Linoka, on le c'est un tuteur du mineur. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est comme on sait que la grand-mère est morte, on sait qu'une partie du terrain appartient maintenant en héritage au mineur. Donc on peut laisser une partie du terrain au mineur en tant que propriété. Et la partie qui continue d'être le bien d'un emprisonné, parce qu'il y a la fameuse tante qui est encore emprisonnée, du coup, on le partage entre une des filles, la fille vivante, et le tuteur. Et Rava, dans la même logique, sur le dernier tiers qu'on partage en deux, il dit, c'est pas la peine, si tu mets un tuteur, laisse pour tout. Migo de Mokim apotropos inaka, Mokmina dami apotropos, l'idananka. Puisque pour le 1 sixième, donc la moitié du dernier tiers, tu as mis un tuteur, tu as qu'à le mettre pour tout. Ça, c'est un marloket abaye vers Rava, double marloket abaye vers Rava, sur ce fameux cas de cette grand-mère emprisonnée avec trois filles, plus un petit-fils. Maribar Assi, qu'on a eu sur maintenant de Maribar Isaac, qu'on a cité il n'y a pas très longtemps avec l'histoire de Naharis, là ici, Maribar Isaac, Atale Acha Mibé Chosae. Il a un frère qui a débarqué de la ville de Chosae. Alors nous dit Rachid, les commentaires nous disent que c'est ce Maribar Isaac qui, lorsqu'il était jeune, est parti habiter avec son père dans la ville de Chosae, et son père a épousé une femme de qui il a eu un fils, donc un demi-frère, donc un frère par le père, donc qui peut éventuellement hérité avec lui de son père, donc un frère de Chosae. Après, il a quitté cette ville, Donc Marie Bar Isaac a quitté cette ville et lorsque son père, Marie Bar Isaac, décède, évidemment, débarque de la ville de Khosaa, débarque une personne qui dit, voilà, je suis ton frère et je veux avoir une part de l'héritage de papa. Amalé lui dit, Pelogli, donc il vient, ce pseudo-frère de Khosaa, il lui dit, Pelogli, partage avec moi. Amalé lui dit, Loyadanalar, je ne te reconnais pas. Et donc je ne peux pas être certain que c'est toi. Alors, Atalekamé est parti voir Khrizda. Et déjà, l'autre n'a pas cru. Il a dit, voilà, ça n'a pas de sens. Dis-moi que tu n'as jamais eu de frère, que je dois prouver que tu as un frère. Mais de dire j'ai un frère, comme ce que tu es en train de dire, mais je ne te reconnais pas, est-ce que c'est un argument qui a un sens? Alors, réponse de Rav Khrizda qui a servi de juge. Marley dit, Shepir oui, il a raison, c'est possible. Pourquoi? C'est marqué dans Bereshit. Yosef était Chav et Yosef a reconnu ses frères lorsqu'ils sont venus en Égypte, mais eux ne l'ont pas reconnu. Parce qu'on sait, au-delà, on apprend qu'il est sorti un berbe, jeune et un berbe, et qu'il est revenu avec une grande barbe, et du coup, qu'ils n'ont pas reconnu. Donc, ne pas reconnaître un frère qu'on a connu enfant est tout à fait possible. C'est pour ça que Rav Khrizda a dit que l'argument de Marie Bar Isaac tient la route. À Marley, à ce moment-là, Rav Khrizda dit Zila était ça, des Dachouat, tu n'as qu'à aller chercher des témoins, à Khouzaé ou ici, que tu es bien le frère de Marie Bar Isaac. Amalé dit, utilise ça, j'ai des témoins. Mais simplement, ils ont peur de Marie Bar Isaac. Marie Bar Isaac était quelqu'un de puissant, d'influent, et les gens, alors on verra que par la suite, que c'était même parfois des gens influents et puissants qui exerçaient de manière volontaire ou de manière involontaire, qui exerçaient une crainte sur les gens. C'était ça parce que les gens n'osaient pas témoigner contre eux. Des Gavra, il est mahou parce que c'est quelqu'un de puissant. Amalé, l'idée, Zil ant a été sadé de la vachouchou. Alors il se retourne maintenant vers Marie Bar Isaac qui lui dit, voilà, c'est à toi d'apporter des témoins que cette personne-là n'est pas ton frère et donc que tu n'as pas besoin de partager. Alors Amalé, il dit, Dinahim, mais dis-moi, c'est ça la halakha? Marie Bar Isaac s'étonne. Devant après, il dit, mais c'est ça la halakha? Pourtant, Motsi Mechabra la Varaïm, il y a un principe que c'est celui qui veut sortir l'argent de l'autre qui doit apporter la preuve. Moi, j'ai mon héritage, lui veut me sortir la moitié de l'héritage pour lui, à lui de prouver qu'il est mon frère et qu'il a le droit de me prendre la moitié. Amalé, il dit, tu as raison, mais c'est comme ça que je juge et que je jugerai toi et tous les gens puissants comme toi, parce que justement, vous, vous empêchez les gens de témoigner. Alors, il lui dit à ce moment-là, Marie Bar Isaac. Alors, il faut comprendre que selon Tosfot, par exemple, ici, on ne parle pas qu'il va chercher des témoins que ce n'est pas son frère, parce que c'est compliqué. Des témoins que c'est son frère, c'est une chose. Des témoins que ce n'est pas son frère, c'est un peu compliqué. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, il lui demande d'aller chercher ces témoins-là en question et de les faire venir au Bedin pour qu'il n'ait plus peur. Alors, il lui dit à Marley, sauf, sauf, à Tissadé, Vélo, Missadé. Mais attendez, ça n'a pas de sens votre histoire. Vous dites que je suis tellement puissant que les gens ont peur de moi. Même si j'amène des témoins ou que je les amène, selon votre logique, ils ne devraient pas témoigner. Parce que ça se trouve, je vais les amener. Ils vont dire, encore une fois, que, comme moi, que ce n'est pas mon frère. Et vous direz, oui, mais ils ont peur. Alors, à quoi ça sert que j'amène des témoins si vous partez du principe qu'ils ont peur de moi? Réponse de la prise d'âme, allez, tartez le non. Les gens qui ont peur comme ça, ils font deux erreurs. Ils font pas deux erreurs. C'est-à-dire que à la limite, ils ont peur de venir témoigner d'eux-mêmes, spontanément. Mais une fois qu'on les appelle au Bedin, ils ne vont pas mentir. Et donc, du coup, amène-les. Et justement, répare le fait que tu leur fasses peur. Amène-les de telle sorte à ce qu'ils puissent témoigner. Donc, on va tenter de résumer ce daf qui était très intéressant et assez riche. On a vu donc que la marloquette Rav Shmuel sur est-ce qu'on met un proche sur les biens de quelqu'un qui est emprisonné ou pas, marloquette entre Rav Shmuel, selon Rav non, selon Shmuel oui, on retrouve c'est Tanakama qui dit non et Rashbag qui dit oui. On a par contre deux cas extrêmes. Le cas où lorsque la personne est partie, on a nous un témoignage plus ou moins que la personne est morte. À ce moment-là, c'est pas qu'on laisse comme un haris entre Rashbag et Tanakama ou Rav Shmuel, c'est soit on le met sur le terrain. Et il est payé comme un haris, soit on ne le met pas sur le terrain. Là, par contre, les cas extrêmes, si on pense qu'il est mort, on laisse prendre tous les fruits jusqu'à la dernière instant où la personne arrive, même si on sait qu'elle va arriver. Et dans le cas, par contre, de l'autre côté, où la personne est dans la région, mais il ne revient pas, donc il est plus ou moins volontaire dans le fait de ne pas revenir ou dans le fait de ne pas donner d'ordre, dans ces cas-là, tout le monde sera d'accord qu'on ne peut pas mettre la personne sur le terrain parce qu'on estime qu'on a une présomption que la personne ne souhaite pas justement que l'on s'occupe de son terrain. Après, on avait vu que lorsque dans le terrain, avant même de travailler le terrain, il y avait déjà une récolte immédiate, des biens qui sont des récoltes qui sont déjà mûres. Ces récoltes qui sont mûres, comme on a vu à plusieurs reprises, comme elles sont en dimlikatser, elles sont déjà prêtes à être récoltées, c'est comme si c'est déjà récolté. Et donc, elles n'ont pas un statut de terrain immobilier, mais un statut quasiment de bien mobilier. Et donc, du coup, ça ne rentre pas dans le din de Karov, qui y aurait une irsé chavouille. Et donc, du coup, on a un tuteur. Pour cela, le tuteur s'occupe de la récolte qui est déjà prête. Et après cela, on laisse un proche, parce qu'encore une fois, le tuteur, on a peur qu'il s'en occupe pas. Après, on avait vu, on ravuna, qu'on ne met pas un mineur pour s'occuper d'un terrain, de peur qu'il s'en occupe mal. Et on ne peut pas mettre un proche sur le terrain d'un mineur, et même le proche d'un proche sur le terrain d'un mineur. Par rapport au proche d'un proche sur le terrain d'un mineur, c'est que par rapport au frère de la mère, alors que l'autre, il n'y a pas de distinction. Et après, on avait vu une histoire un tout petit peu complexe avec l'histoire d'une femme qui avait trois filles. Elle et une étaient emprisonnées, une qui est morte et qui laisse un héritier mineur, et une qui est encore vivante. Que fait-on dans ce cas-là où on a la crainte que la grand-mère soit morte et on a la crainte qu'elle soit vivante et donc en captivité? Et donc on a peur, on ne sait pas si finalement l'enfant, est-ce que l'enfant est héritier et propriétaire ou est-ce que finalement il n'est pas propriétaire. Et donc c'est encore la grand-mère qui l'est. Et donc comme on ne sait pas, on peut mettre ni la tante restante, ni l'enfant mineur, de ne pas transgresser une des deux à la chotte de Ravuna, de ne pas mettre un katan ou de ne pas mettre un adulte sur le terrain d'un katan. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on partage le terrain entre la tante qui reste et un tuteur qui remplace le mineur. Dans le cas où on entend que la grand-mère est morte, où là, et il reste une des tantes qui est propriétaire, qui est héritière et qui est encore emprisonnée, à ce moment-là, on partage en trois grandes catégories. Un premier tiers qu'on donne à la tante, un autre tiers que l'on donne au mineur qui est devenu héritier, donc propriétaire, et le dernier tiers, on a encore une marquette entre Abaye et Rava, le dernier tiers, on le partage entre tuteur et la tante, et selon Rava, on le donne entièrement au tuteur. À chaque fois que Abaye dit qu'on partage entre un tuteur et la tante, il dit à ce moment-là, on n'a qu'à donner entièrement au tuteur. Et on avait une histoire entre Marie Barisak et une personne, et Rafriza. On avait en tout cas que là où en général on dit aussi Mechavero la Varaya, on apprenait que lorsque la personne à qui on réclame de l'argent, qui normalement n'a pas à se défendre, quand cette personne-là est une personne qui, par son statut, par son pouvoir, impose une crainte aux gens et que l'on sait et que l'on pense que les gens n'osent pas témoigner contre elle, c'est à elle d'apporter une preuve qu'elle ne doit pas d'argent, c'est à elle d'amener les fameux témoins en question pour les faire témoigner au tribunal.